Vous écoutez RTL.
Il est 18h.
Charlotte Arrigoni.
RTL Soir.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une demi-heure d'informations sur RTL. À la une, Emmanuel Macron met ses vacances entre parenthèses. Le chef de l'État a appelé aujourd'hui les pompiers de Haute-Corse alors que plus de 2000 hectares de végétation sont partis en fumée. Un suspect a été arrêté à Bastia, il est soupçonné d'avoir allumé 5 feux. Emmanuel Macron présent aussi sur la scène internationale. Dans le conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord, le président appelle à prévenir toute escalade des tensions. Également dans cette édition, la route des vacances a été encore très compliquée sur les routes ce samedi. 720 km de bouchons cumulés ont été enregistrés à la mi-journée. Les mondiaux d'athlétisme à Londres, le français Kevin Mayer garde la tête en décathlon, mais s'est fait peur en saut à la perche. Il lui reste encore 2 épreuves, nous serons sur place. Et puis le foot, ça se passe en ce moment. Nantes accueille Marseille pour la deuxième journée de Ligue 1. Où en est-on, Philippe Audouin. Philippe ? Bon, bah écoutez, il y a en tout cas 0-0 pour l'instant entre les deux clubs. Nous retrouverons Philippe Audouin un petit peu plus tard. La météo, bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir Charlotte, bonsoir
vous,
à tous.
Vous êtes bien là. Alors, oui. Il va y avoir une amélioration, mais amélioration très lente. Ne nous emballons pas.
Soyez patients sur la moitié nord du pays. La matinée, demain sera encore très nuageuse avec encore quelques pluies très faibles, très localisées entre le Grand Est, le Centre Val-de-Loire et le Poitou-Charentes. Mais progressivement, en fin de matinée, on va retrouver un temps plus sec. Les éclaircies vont revenir par les côtes de la Manche et ces éclaircies vont gagner du terrain demain après-midi sur la moitié nord. Dans le sud, ce sera encore très ensoleillé avec encore du mistral demain matin en basse vallée du Rhône jusqu'à 70 km/h en rafale. Les températures encore fraîches en matinée, seulement 10 degrés à Brest, 12 à Lille, 13 à Paris et à Agen. Et dans l'après-midi, température comprise entre 20 et 33 degrés, 20 degrés à Quimper, 22 à Lille, 23 à Paris, 26 à Lyon, 27 à Bordeaux et jusqu'à 33 degrés à Marseille. Lundi, ça se confirme, ce sera une très belle journée avec des températures en hausse et du soleil.
Ah enfin, merci Patricia. À 18h20, on refait les courses avec Bernard Glass et Claude-Pierre Santi. L'arrivée du quintet cet après-midi à Deauville, il fallait jouer le 10, le 11, le 2, l'As et le 15.
RTL Soir.
Les pompiers restent à pied d'œuvre en Corse pour contenir les flammes qui ont déjà détruit 2000 hectares de végétation en l'espace de quelques heures. Même si la situation s'améliore, les secours restent très prudents car les vents soufflent encore à plus de 60 km/h et cela pourrait très vite aggraver à nouveau la situation. Des milliers de personnes ont été évacuées vers des écoles et des refuges par mesure de sécurité. Alors quelle est la situation ce soir ? RTL vient de joindre le colonel des sapeurs-pompiers de Haute-Corse, Charles Baldassari.
Nous avons encore aujourd'hui deux feux importants traités. Le premier, c'est celui qui est parti dans la nuit dans le Cap Corse et qui a gravi la ligne de crête qui surplombe les vallées de Pietracordar et de Sisco. Cet éperon rocheux est très handicapant parce que les avions ne peuvent pas y pénétrer. Il y a des turbulences parce qu'il y a encore du vent. Et cette zone d'incertitude, nous allons essayer de la réduire à travers un élément en renfort qui arrivera encore demain en Haute-Corse, 40 personnels spécialisés en technique d'héliportage. La séquence est longue et rude pour les organismes des sapeurs-pompiers d'Haute-Corse.
Juste un petit mot, colonel. Je crois que le président de la République vous a directement contacté aujourd'hui. Que vous a-t-il dit ?
Il a porté un témoignage fort de valorisation du travail des sapeurs-pompiers du SDIS et des sapeurs-pompiers de France sur notre attachement à la sécurité civile qu'un certain nombre de personnes connaissent comme moi est un témoignage fort et je lui remercie.
Charles Baldassare, le colonel des sapeurs-pompiers de Haute-Corse, joint pour RTL par Sinamir. Vous l'avez peut-être entendu à la mi-journée sur RTL, l'émotion du maire de Sisco à l'est de la Corse. Ange-Pierre Vivoni était notre invité à la mi-journée et il s'est montré très touché par le sinistre qui a complètement défiguré sa commune.
Aujourd'hui, c'est une catastrophe écologique, mais nous aurions pu avoir une autre catastrophe que cela, parce que nous n'avons pas de biens brûlés, pas de maisons brûlées, pas de victimes. Hier, j'avais une commune qui était verte, qui était verdoyante, qui est une beauté que tous les touristes la prenaient en photo, et tout le monde la vantait pour le vert que c'était. Aujourd'hui, c'est la mer de la tranquillité de la lune. C'est un paysage lunaire. Il ne reste plus rien. Vous ne voyez que le rocher du noir. C'est incommensurable la peine que vous pouvez avoir. C'est comme si vous avez perdu quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche.
Le maire de la commune de Cisco, Ange-Pierre Vivoni, invité de RTL Midi. Autre incendie, cette fois dans le Gard. Le feu s'est déclaré aux abords de la commune de Chusclan, près de Bagnols-sur-Cèze. Une vingtaine d'hectares de garrigues sont partis en fumée, mais le feu est actuellement fixé. Une scène d'horreur dans l'Isère. La nuit dernière, un homme de 29 ans a tué sa compagne à coups de couteau à leur domicile, Derieux, au sud-est de Lyon. L'homme était fortement alcoolisé lorsqu'il a été arrêté. Les secours ont pris en charge les trois enfants de la victime, âgés de 3 à 8 ans. On ignore pour le moment s'ils ont assisté au drame.
RTL Soir.
C'est le chiffre du jour. 720 kilomètres de bouchons cumulés ont été enregistrés à la mi-journée en France. Ce n'est pas une surprise puisque Bison Futé avait prévenu, mais ça reste quand même beaucoup. On fera le point dans un instant sur vos conditions de circulation. Mais d'abord, nous allons retrouver Arnaud Grange sur l'autoroute A7, sur l'aire de repos de Cérézin-du-Rhône. Vous avez rencontré des vacanciers qui rentrent chez eux. Arnaud, pas franchement content, il faut le dire, de quitter le soleil et la chaleur.
Oui, ce n'est pas les bouchons ou les heures de voyage qui les chagrinent le plus, c'est plutôt la baisse des températures. Cette famille vient de passer 15 jours à Port-Grimaud dans le Var.
15 jours de soleil et de grosse chaleur.
Alors forcément, ce retour à la maison dans le Nord, c'est...
dur. On va retrouver la grisaille du Nord après 15 jours de beau temps. Donc forcément, le contraste va être terrible. Après, c'est les premiers jours qui vont être durs et après c'est reparti. Quoi.
C'est pas du tout la même chose, on a 20 degrés d'écart par rapport à Hambol en ce moment. Bah, on a eu jusqu'à 40 et là... On a eu nos parents ce matin, ils avaient 17, donc ça fait un sacré contraste. On va mettre les polaires.
Alors qu'ils étaient habitués depuis 15 jours au maillot de bain, ces vacances, ils en ont profité pleinement. C'était déconnexion totale du quotidien.
On part avec des bons souvenirs, tout ça, donc ça fait du bien, quoi. Surtout le jet ski, le karting, ouais. tout ce qui était du sport, tout ça, quoi. C'est vrai que ça change.
C'est vrai que c'est beau, après les paysages, tout ça, on n'a pas les mêmes. Le temps, pareil, c'est la même chose.
Bah, ça permet un peu de se vider la tête et puis ça fait du bien, quoi, tout court.
Après quasiment une année de travail, ça fait du bien pendant 15 jours de ne pas faire grand-chose.
Restent désormais les souvenirs et notamment les photos qu'ils partagent sur les réseaux sociaux.
Le reportage pour RTL d'Arnaud Grange sur l'autoroute A7. Beaucoup de monde qui part, beaucoup de monde qui revient. Ça a donc été compliqué pour les automobilistes. Je le disais tout à l'heure, 720 km de bouchons ont été enregistrés à la mi-journée. Florian Bonnet, comment ça se passe ce soir? Est-ce que la tendance est quand même à l'accalmie?
Eh bien oui, ça roule de mieux en mieux sur l'ensemble du territoire après cette grosse journée de chassé-croisé. Il y a encore quelques points de blocage néanmoins, notamment dans le Languedoc. Le trafic est bien chargé dans les deux sens de circulation entre Perpignan et la frontière espagnole. Mais là, comme je le disais, la tendance est à l'amélioration. Un peu plus au nord, si vous recherchez à joindre l'A9 alors que vous venez depuis Toulouse, au niveau de Narbonne, il y a un embouteillage qui vous fait perdre plus de 30 minutes. Enfin, un peu plus haut, dans le secteur de Béziers, vous êtes encore nombreux à rouler pare-chocs contre pare-chocs. Depuis Montpellier en direction du sud, il va vous falloir un peu de patience. Voilà pour la région Occitanie, le Languedoc, qui concentre les principales difficultés, puisque dans la vallée du Rhône, le trafic se fluidifie nettement dans les deux sens de circulation. Enfin, si vous transitez par Bordeaux dans le sud-ouest, il y a des bouchons. Si vous arrivez depuis l'A10 vers le sud, vous perdez actuellement plus d'une heure à partir de la localité de Saugon, un embouteillage de 20 km. A l'inverse, si vous quittez la rocade bordelaise vers cette même A10 vers le nord, vous freinez sur plus de 8 km jusqu'à Saint-André-de-Cubzac, ce qui rajoute une bonne demi-heure à votre temps de parcours.
Merci Florian. Et si vous prenez la route demain, sachez que ça roulera beaucoup mieux. La journée sera classée verte sur une large partie du pays, excepté dans le sud-est, ce sera orange dans le sens des retours. Le mea culpa à demi-mot du cardinal Barbarin. Dans un entretien au journal Le Monde, l'archevêque de Lyon confie ses regrets, ses erreurs de gouvernance dans l'affaire Bernard Prénat, prêtre de son diocèse soupçonné d'agression sexuelle. Dans cette affaire, le cardinal Barbarin devra prochainement comparaître face aux victimes présumées. Oui, mais voilà, pour François Devaux, le président de l'association de victimes La Parole Libérée, ses excuses arrivent un peu tard.
Tout ça arrive bien tardivement. On parle quand même de sexualité, d'enfants qui sont des objets sexuels pour des adultes. Suite à la médiatisation, tout d'un coup, il y a un mea culpa qui apparaît, avec tout d'un coup un procès canonique qui est diligenté par le cardinal Barbarin. Tout ça arrive bien tardivement, je trouve, et on peut en tout cas se poser la question de la sincérité de cette démarche. Si cette démarche n'est pas animée par une profonde prise de conscience, un volontarisme profond, et que c'est juste un calcul, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ces choses-là ne se reproduisent pas. Et le seul moyen d'y répondre, c'est d'ouvrir un débat juridique. C'est ce qu'on a fait au travers de cette citation devant le tribunal correctionnel.
François Deveau, le président de la Parole libérée, joint pour RTL par Gauthier de Lombugard. Vous écoutez RTL, il est 18h, passé de 10 minutes. On marque une pause et dans un instant, Emmanuel Macron appelle au calme les États-Unis et la Corée du Nord.
Charlotte Arrigoni,
RTL Soir.
Je vous le disais tout à l'heure, au cœur de ses vacances, Emmanuel Macron a fait une réapparition sur le devant de la scène. Le président a tenu à s'entretenir avec les pompiers de Haute-Corse pour saluer leur travail sur le terrain. Mais ce n'est pas le seul dossier que le chef de l'État a abordé aujourd'hui. En effet, après la Russie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou encore la Chine, Emmanuel Macron s'est à son tour immiscé dans le dialogue rompu entre les États-Unis et la Corée du Nord, Pierre-Julien.
Oui, le président de la République affirme en effet qu'il y a nécessité à prévenir toute escalade des tensions. Il en appelle à la responsabilité de tous, la menace balistique et nucléaire faisant peser une menace sérieuse sur la sécurité de toute la région. Dans son communiqué, Emmanuel Macron se réfère bien sûr au Conseil de sécurité des Nations Unies pour amener Pyongyang à reprendre la voie du dialogue, et ceci sans condition. Par ailleurs, le chef de l'État, qui rappelle la solidarité de la France avec ses alliés, s'est entretenu aujourd'hui avec Donald Trump au téléphone. Les deux hommes vont évidemment rester en contact et ont convenu que leur objectif est bien que la Corée du Nord se conforme à ses obligations internationales. Si l'Élysée ne fait pas référence aux propos du président américain qui promet à Kim Jong-un le feu et la colère, si jamais, en revanche, Donald Trump a reçu un autre coup de fil de la part de son homologue chinois qui, lui, l'exhorte à éviter d'exacerber la situation à travers les mots et les actes. Mais Xi Jinping a surtout pointé du doigt le comportement provocateur de la Corée du Nord. Washington espère ainsi que Pékin arrivera à faire comprendre à son voisin plus que provocateur, qu'il joue avec le feu et que des répercussions, des sanctions notamment économiques, pourraient vraiment l'asphyxier.
Les précisions pour RTL de Pierre-Julien. En Égypte, le bilan s'est alourdi. Plus de 40 personnes sont mortes dans la collision entre deux trains hier près d'Alexandrie. Les deux conducteurs ont été interpellés et plusieurs responsables de l'autorité des chemins de fer ont été suspendus. En Inde, au moins 60 enfants sont morts en 5 jours dans un hôpital public au nord du pays. Les médias locaux mettent en cause la pénurie de bonbonnes d'oxygène dans l'établissement. La société n'a plus fourni l'établissement de santé en raison d'impayés. Une enquête a été ouverte.
RTL Soir.
Il est 18h12, direction Londres à présent, où l'on continue de suivre les mondiaux d'athlétisme en compagnie de Jean-Michel Rascol et de notre consultant Alain Blondel. Jean-Michel, le décathlon touche à sa fin. Il reste deux épreuves ce soir, le javelot et le 1500 mètres. D'ici là, comment s'est passé le saut à la perche pour Kevin Mayer cet après-midi? Et surtout, le Français est-il toujours en tête?
Eh bien, Kevin Mayer s'est fait une petite frayeur. Pourquoi d'ailleurs petite? Une vraie frayeur dans le concours du saut à la perche qu'il avait décidé de débuter à 5,10 m. Après deux échecs, il s'est retrouvé face à son destin. Il effacera finalement la barre à sa troisième tentative sans la moindre marge de sécurité. Il échouera par la suite à 5,30 m. Le Français a assuré l'essentiel et comme l'Allemand Rico Freimuth s'est contenté d'un saut à 4,80 m, eh bien, il possède plus de 100 points, 116 très exactement d'avance sur son principal rival. Ce que l'on peut dire, c'est que Kevin Mayer, avant le javelot, puis le 1500 mètres, est dans une position idéale. Il ne battra pas le record du monde d'Ashton Eaton, mais peut améliorer son record de France établi aux Jeux Olympiques de Rio. La soirée à venir couronnera donc l'athlète le plus polyvalent du stade et sans doute le premier des spécialistes. Usain Bolt, en effet, disputera la dernière course de sa carrière à 22h50 avec le relais jamaïcain du 4x100, une ultime ligne droite pour signature. Ligne droite que partagera Christophe Lemaître puisque le relais français s'est brillamment qualifié ce matin. Avec aussi les Américains dans cette course, le jubilé s'annonce grandiose.
Et on vivra tout ça avec vous, Jean-Michel Rascol, envoyé spécial de RTL à Londres. Si vous êtes passé à côté, je vous signale le message de Pierre-Ambroise Boss sur Twitter. Le champion du monde du 800 mètres a quitté Londres. Son Eurostar arrive à 18h47 précise, gare du Nord à Paris. Il propose carrément d'aller boire un verre avec lui. Autant dire que ça risque d'être la cohue. Le foot, c'est en ce moment le match Nantes-Marseille. Et on retrouve Philippe Audouin sur place. Alors, quel est le score, Philippe?
0 à 0, Charlotte, après 10 minutes. En deuxième période, l'OM qui aurait dû marquer en première mi-temps avec trois grosses occasions sur lesquels Tata Roussanou, le nouveau gardien nantais qui fait sa première aujourd'hui sous ses nouvelles couleurs, s'est brillamment interposé sur un tir d'Anguissa, une tête de Thauvin et encore une tête de Valère Germain. Et puis côté nantais, il y avait eu une occasion au début de match avec Bamou, puis une autre pour Diego Carlos. Mais le fait notoire de la première mi-temps, c'est que Nantes, après 20 minutes, avait effectué ses trois changements décimés par les blessures. Les Nantais qui n'avaient déjà pas les meilleurs arguments sur le papier au coup d'envoi et qui du coup se retrouve vulnérable. Mais malgré cela, l'OM ne parvient pas à marquer la première occasion de la deuxième mi-temps, et même Nantes avec une reprise de volée de Lucas Sima qui est passé de peu à côté. Un OM finalement assez décevant, 0-0 donc entre les deux équipes après 56 minutes.
Merci Philippe, à tout à l'heure. Et ce soir à suivre à partir de 20h, Amiens, Angers, Bordeaux, Metz, Caen, Saint-Etienne et Toulouse, Montpellier. Grande soirée sport sur RTL avec On refait le match à partir de 18h30 avec Pascal Pro, et de 19h à 23h, ce sera le multiplex RTL, l'équipe. J'ajoute en Ligue 2 cet après-midi, Sochaux a battu Lens 3-2, Lens dernier du classement pour le moment avec 0 points. En Espagne, Zinedine Zidane a confirmé ce samedi qu'il allait prolonger son contrat d'entraîneur au Real Madrid. L'ancien champion du monde s'est dit content de la confiance accordée par le club espagnol avec lequel il vient de remporter 2 Ligues des Champions consécutives. Tout le monde ne pourra malheureusement pas en profiter étant donné que le ciel est nuageux sur une bonne partie du pays. Mais pour les autres, pensez à lever la tête au ciel cette nuit. Il va y avoir, comme chaque année, une pluie d'étoiles filantes et ça va valoir vraiment le coup, comme nous l'explique Olivier Las Vargas, président de l'Association française d'astronomie.
En théorie, il peut y avoir jusqu'à 50, voire même 100 étoiles filantes à l'heure. Alors là, c'est dans un ciel parfaitement dégagé. Évidemment, si on a un peu moins de ciel, un peu de brume, il faut s'attendre plutôt à en voir une dizaine quoi, par heure. Pour voir les étoiles filantes, il vaut mieux être dans le ciel le plus noir possible. Hein. La pleine lune, c'était lundi dernier. Donc elle va être un peu gênante parce qu'on ne verra pas les perséides faibles. Mais ça n'empêche absolument pas de voir les perséides brillantes. Hein. Les meilleures conditions pour voir les perséides, c'est d'être installé confortablement dans un endroit où il fait le plus beau possible. Et c'est une opération un peu longue durée. Quoi. Il faut prévoir de regarder au minimum une demi-heure, voire plus, pour espérer vraiment profiter du spectacle. Il vaut mieux regarder dans la direction est ou nord-est, parce que c'est de là qu'elle semble provenir, mais en fait on peut en voir dans toutes les directions du ciel. Elle semble simplement venir du nord-est.
Olivier Las Vargas, président de l'Association française d'astronomie. Il était avec Sophie Jousselin pour RTL. 18h17, une courte pause et dans un instant, Martial Liu nous emmène en 2021. Ce sera le journal du futur.